Celui qui croit en moi, quels sont ceux qui croient en Jésus-Christ ce matin? Quelle question, Philippe, quand même, quelle question. Tout de même. Celui qui croit en moi, avec un sous-titre, mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Chaque début d'année, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un moment propice. Il y a le début d'année, mais il y a aussi le mois de septembre. C'est un moment propice pour faire le point. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, j'aime bien profiter de ce moment pour réfléchir et faire le bilan de l'année écoulée. Faire des projections sur l'année qui vient. Et je ne sais pas pour vous, mais on a quand même l'impression d'avoir de moins en moins le temps pour réfléchir. Qui éprouve ça aussi? Ça vous arrive? Non, il n'y a que moi? Ah, merci. On a de moins en moins le temps pour réfléchir. Ça devient un luxe de débrancher. Ça devient un luxe de se déconnecter. Alors pour ceux qui ne sont pas connectés, ils vont dire « Mais je ne sais pas de quoi tu parles. » Hein, Patrick? Mais quand même, il faut constater que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est quand même difficile de débrancher. Et nous sommes tellement occupés à faire telle ou telle chose. Et c'est même à se demander si on n'aurait pas une certaine crainte à rester assis, à rien faire. Enfin, en tout cas en apparence. Parce que s'asseoir et réfléchir, ça donne peut-être l'impression de ne rien faire. Et cependant, c'est une nécessité. C'est une nécessité de s'asseoir à un moment donné et de faire le point de réfléchir. Car lequel de vous, nous dit Luc 14, 27, 30, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. » Avant d'envisager de rentrer dans de grands projets, la parole de Dieu nous invite à nous asseoir pour calculer la dépense, pour savoir ce que cela va nous coûter. Et je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement d'argent. Non, bien sûr. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de l'investissement en temps que je suis disposé à accorder à ce projet. Il s'agit de l'énergie que cela va me demander. Il s'agit de sonder la mesure de foi dont je dispose pour le voir aboutir, ce projet. Il s'agit de savoir sur quoi ma foi est-elle fondée pour entamer un tel projet. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit Jésus, je le ferai. Celui qui croit en moi. Plusieurs fois on trouve, dans le Nouveau Testament, celui qui croit en moi. Et cette parole nous fait réfléchir parce qu'elle nous interroge sur notre situation par rapport à notre foi, à notre croyance, à la profondeur de la confiance que nous mettons en Dieu, en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on se pose cette question ce matin. Quelle confiance accordons-nous dans le Seigneur aujourd'hui? Comment cette année approfondir et faire grandir et enraciner notre confiance en Jésus-Christ? Et je vous propose de lire ensemble Actes chapitre 19, versets 8 à 20. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lumière à nos pieds, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est toi qui nous diriges, c'est toi qui nous conduis. Merci pour ta parole qui va jusqu'à séparer âme, esprit, jointure et moelle comme cette épée à double tranchant. Merci de nous éclairer ce matin et encore une fois de nous faire grandir. Amen. Actes 19, versets 8 à 20. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire face à des récalcitrants ? Assez régulièrement, on va dire. Je veux parler de ces personnes à qui vous annoncez l'Évangile, parce que vous êtes convaincus de la nécessité du fruit qu'ils portent, bien sûr, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples, et que ces personnes ont besoin d'entendre l'Évangile. Mais pour autant, non seulement elles ne veulent rien entendre, mais en plus, elles se servent de ce que vous leur avez dit pour vous calomnier ou pour décrier devant la multitude la voix du Seigneur. Lorsque j'étais au Liban l'été dernier, j'ai eu affaire à de telles personnes qui considèrent que l'aumônier protestant n'est pas légitime. Comment ça ? Qui c'est celui-là ? Quel est cet imposteur qui parle de Dieu alors que nous avons déjà un aumônier ? Un aumônier d'une autre confession qui venait avec eux. Hein. Et que nous connaissons cet aumônier comme le seul, le vrai. Frères et sœurs, quel sentiment terrible de voir cette main que nous tendons, comme ça vous est déjà arrivé et ça nous arrivera encore, et que cette main que nous tendons, les gens la mordent ou même crachent dessus. Alors que nous tendons cette main pour réconcilier les hommes avec Dieu, ambassadeurs que nous sommes, vous êtes ambassadeurs de Christ. Donc on a affaire à des récalcitrants. J'allais dire, c'est normal. Et dans cette situation, on peut se poser cette question, et je me suis posé cette question. Qui suis-je ? Pourquoi tant de souffrance et de persécution à mon égard ? Vous êtes déjà posé cette question pour vous ? Et finalement, à quoi ça sert tout ça ? Qui suis-je ? Ah, attendez, c'est pas celui-là. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Est-ce que je l'ai ? Oui. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Frères et sœurs, c'est bien parce que Jésus est mort à notre place qu'il a fait de nous des ambassadeurs. Ce n'est pas par nos propres mérites, mais c'est bien par sa grâce seule. Alors quand nous nous posons la question de notre légitimité à annoncer l'Évangile à d'autres, non seulement nous répondons à l'ordre du Seigneur qu'il nous a adressé de faire de toutes les nations des disciples, mais de plus nous avons l'assurance que nous sommes légitimes car il a fait de nous ses ambassadeurs. Amen. Dis à ton voisin, je suis un ambassadeur de Christ.
Je suis un ambassadeur de Christ.
Alléluia, je suis un ambassadeur de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, frères et sœurs. Parfois, nous pouvons être non seulement déçus, mais vexés de ce que certains n'entendent pas notre message. Nous pourrions même avoir de l'amertume envers ceux à cause de qui d'ailleurs on est calomnié. Et quand on voit leur façon de réagir. Mais qu'a fait Paul ? Qu'a fait Paul ? Il s'est tout simplement retiré d'eux pour aller déprimer ailleurs. Non, je ne crois pas, Philippe, non, c'est pas ce que j'ai lu. Paul n'est pas parti déprimer ailleurs. Il est parti aller enseigner chaque jour dans une école d'un certain nommé Tyrannus. Tyrannus qui était probablement, selon certains exégètes, le nom donné au propriétaire par les étudiants qui devaient le trouver un peu tyrannique. C'est ce que j'ai lu dans certains commentaires. Bon. Le texte nous dit que Paul y est resté 2 ans, en sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et parfois, nous pouvons être un peu obtus dans notre perception des événements. Enfin, moi, je le suis. Hein. Des fois, j'ai un peu de mal, surtout quand j'ai un peu mal au cervical, pour regarder à côté. Bon, j'essaie de vous faire rire, mais ça ne marche pas. Parfois, on est un peu obtus dans notre perception des événements. Comment ça ? Ils rejettent l'évangile et ils me rejettent avec. J'aurais tendance à répondre, tant pis pour eux, hein, j'abandonne. Je vais m'enfermer chez moi et puis comme ça, je serai tranquille avec le Seigneur. Est-ce qu'on n'est pas tenté parfois de faire ça ? Lorsque Paul s'est retiré d'eux et est allé rejoindre l'école de Tyrannus, le Seigneur confirmait sa parole par des miracles extraordinaires. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Et le diable veut nous garder enfermés dans notre sentiment de rejet et de persécution. Le diable veut nous tenir enfermés dans notre sentiment de rejet et de persécution. Pourquoi ? Parce que ça lui permet de garder les enfants de Dieu loin de leur mission de proclamer le royaume de Dieu. Un chrétien dépressif, c'est un chrétien qui ne fait pas de dégâts dans le royaume des ténèbres. Mais le Seigneur nous dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi, mon frère, ma sœur, est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu t'enfermeras dans ta chambre et tu pleureras. Tu la condamneras. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut parler. À un moment donné, il faut utiliser les armes que le Saint-Esprit nous a données, la parole de Dieu. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne au nom de Jésus. Amen. Et ça, c'est une responsabilité qui est individuelle, qui incombe à chacun de nous. Combien de fois j'ai dû utiliser les armes de Dieu dans mon corimec, quand j'entendais tout ce qui se disait, quand je voyais tout ce qui... Bref. Toute langue qui s'élève contre moi, je la condamne au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je suis persécuté ? Ben, la réponse est simple. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, il aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Et je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Moi, j'avais tendance à rester sur la première partie du dernier verset. Là. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ok, Seigneur, ça fait mal. Mais quelle promesse derrière. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et c'est ce qui m'invite à me relever à chaque fois que je me sens persécuté, c'est que s'ils gardent ta parole, ils vont aussi garder la mienne, qui est la tienne. Alléluia. À quoi ça sert-il tout ça ? Eh bien, nous avons la réponse au verset, dans le verset que nous venons de lire. afin qu'ils gardent la parole de Dieu dans leur cœur, qu'ils soient transformés par elle, qu'ils soient réconciliés avec lui. Un frère du Liban me disait, tu sais, celui-là, il dit ça et ça de toi, que tu es ceci, que tu es cela. Et en fait, on a deux façons de réagir. Soit je lui rentre dedans, soit je lui rentre dedans. Non, c'est pas la deuxième façon. Si nous ne gardons pas à l'esprit que ceux qui nous ont, que ceux qui nous persécutent ont d'abord besoin de Dieu dans leur vie, nous allons nous limiter, voire nous abaisser à combattre avec les armes du monde, répondre au mépris par le mépris, répondre à l'agression par l'agression, répondre au mal par le mal. Mais la parole de Dieu nous demande ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alors je répondais à mon collègue, viens, allez viens, on va prier pour lui. Que la grâce de Dieu rentre dans sa vie. Pourquoi ? Parce que les gens qui agissent ainsi sont malheureux. Ce sont des gens qui souffrent et qui font souffrir les autres. On voit bien, nous qui pataugeons dans le bonheur, on a envie de partager le bonheur que nous vivons, n'est-ce pas ? Amen ? Qui c'est qui patauge dans le bonheur ici ? Et nous n'avons qu'un souhait, c'est celui de éclabousser du bonheur autour de nous. Mais quand les gens souffrent, ils font souffrir leur entourage même sans le savoir, même inconsciemment. Raison de plus pour leur parler du Seigneur et de l'amour qu'il a pour eux. Il veut les sortir de leur situation. Alors, mieux connaître le Seigneur pour mieux connaître qui nous sommes. Il a fait de nous des ambassadeurs. Toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute langue qui s'élève contre nous, on la condamne. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Quelle promesse extraordinaire. Quelle promesse extraordinaire. Les fils de Séva ne connaissaient pas personnellement Jésus. Ils en ont entendu parler. L'esprit qu'ils ont essayé de chasser, s'en est bien rendu compte lui aussi, hein, on l'a lu tout à l'heure. Et en conséquence, la conséquence a été terrible. Ils sont repartis nus et blessés. Je vous conjure par celui que Paul prêche. Ouais. Frères et sœurs, si nous entretenons une relation que le Seigneur va avoir avec chacun de nous, si nous plongeons nos regards dans la loi parfaite, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le Seigneur a prévu dans son Église et pour chacun de nous que nous nous perfectionnions en vue du travail qu'il a donné à chacun. Je répète. Le Seigneur a prévu dans son Église et pour chacun de nous que nous nous perfectionnions en vue du travail qu'il a donné à chacun. Il nous a donné à chacun un travail dans l'Église. Pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Que nous parvenions tous à l'état d'homme fait ou de femme faite. Je ne sais pas si on peut dire femme faite, mais l'idée, elle est là. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons ce matin quelle est notre destinée, à quoi nous sommes destinés, tous, individuellement. Peut-être quelqu'un se dit ce matin, moi je ne sais pas à quoi je sers dans le royaume de Dieu. Le Seigneur ne m'a rien donné. J'ai pas de talent, je ne sais pas chanter. Détrompe-toi mon frère, ma sœur. Dieu a mis en toi un talent, un don, pour que tu participes à l'édification du corps de Christ. Dieu a mis en toi un talent et un don pour l'édification du corps de Christ et pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes destinés à devenir sur cette terre un peu plus chaque jour à la ressemblance de Christ. Frères et sœurs, je vous propose un défi pour les jours suivants. Vous savez, dans le point de situation qu'on fait tous les ans, là, à réfléchir. Chaque matin, avant de poser le pied par terre, dites-vous, je décide aujourd'hui de travailler à être un peu plus ce soir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors ça fait une longue phrase. Hein. Je désire ce matin travailler à être un peu plus chaque jour à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et Saint-Esprit, merci de m'aider, car sans toi, je ne peux rien faire. Et si on se lance ce défi, je suis sûr que nous verrons du changement dans nos vies. Nous verrons du changement dans nos églises. Nous verrons du changement dans notre église. Déjà d'ici à la fin du mois de février. Seigneur, conduis-moi à la stature parfaite de Christ encore un peu plus aujourd'hui. Amen. On essaie de faire ça et puis on en reparle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et parce que le Seigneur Jésus nous a fait devenir enfants de Dieu, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien, 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 rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Qu'on puisse se lever tous les matins avec cette pensée. Et il m'arrive de me dire, mais qu'est-ce que tu attends pour chasser ce démon ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? On est parfois dans des situations où on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui tourne pas rond. Vous avez déjà senti ces choses-là, parfois dans des situations un peu bizarres, un sentiment bizarre, une ambiance étrange, malsaine, qui met tout le monde mal à l'aise. Le diable ne veut pas que nous soyons en paix. Il veut mettre du désordre, c'est son job, de la discorde, de la médisance, de la compétition, de la comparaison malsaine. Tout ça pour que nous passions davantage de temps à nous monter les uns contre les autres au lieu de nous préoccuper du royaume de Dieu. Ensemble. Frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège. Exerçons le pouvoir que le Seigneur nous a donné de chasser ces esprits impurs qui sèment la zizanie dans nos familles, dans nos églises, dans notre environnement de travail. Alors, il ne s'agit pas non plus de manquer de sagesse hein, en agissant n'importe comment. Prions dans ces situations que le Saint-Esprit nous conduise dans la bonne manière de faire. Mais, frères et sœurs, exerçons l'autorité que Jésus nous a donnée sans plus hésiter ni attendre. Il est temps que le monde voit la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église et au travers des enfants de Dieu. Amen. Il est temps. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié, parce qu'elle est bien là la finalité. C'est pas de se dire, oh dis donc, t'as vu, comme j'ai été fort là. Non, à Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire, et lui seul. Ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et je vais finir avec ça, souffre, ne sait plus où il en est, et il s'enfonce davantage chaque jour dans les ténèbres. Les gens sont de plus en plus déprimés, il y a des raisons, hein. Les gens sont de plus en plus déboussolés, les gens ne savent plus où regarder pour trouver la solution à leurs problèmes. Les gens ne savent plus regarder où trouver le réconfort dont ils ont besoin. Ce monde, frères et sœurs, a besoin de l'amour de Dieu. Il a besoin que l'amour de Dieu se manifeste dans leur vie. Il a besoin que la grâce rentre dans leur maison et dans leur cœur. Mais pour cela, il faut que l'Église soit elle-même remplie de l'amour de Dieu. Elle est remplie de l'amour de Dieu. Dieu a donné son amour, Dieu a donné sa paix, il a donné sa joie. Il nous a bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Déjà, c'est maintenant, c'est fait là, ça y est. On a juste à faire ça. Seigneur, merci. Je prends ta bénédiction. Je ne la mérite pas, je ne la mérite pas. Je ne la mérite pas. Mais tu me l'as donnée pour que je puisse te servir pour ton royaume et pour ta gloire. Alors ils verront que nous ne sommes plus les mêmes créatures qu'autrefois, car le Seigneur nous a changés. Alors ils verront que Dieu est capable de répondre à leurs besoins. Futur chanteur. Alléluia. Ils verront que Dieu est capable de répondre à leurs besoins, de trouver du sens à leur vie. C'est Dieu qui a mis un sens à ma vie. Et c'est Dieu qui a donné un sens à votre vie. Je me trompe ? Et ils verront leur besoin d'être consolés, d'être restaurés, d'être guéris, sauvés, comblés, comme nous le sommes. Alors nous avons une grande responsabilité dans ce monde pour être à la hauteur. Ne comptons pas sur nos propres forces. Si j'avais compté sur mes propres forces, ce matin je ne serais pas devant vous. Mais appuyons-nous sur la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en chacun de vous. Vous êtes son temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors parfois, bon, déconnectons la prise du bas et reconnectons la prise en haut. Vous voyez l'image ? Seigneur, c'est à toi que je veux rester attaché. Seigneur, je te prie que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes, Seigneur, le discernement. Que tout ce que nous voyons autour de nous, Seigneur, ne soit pas là pour nous accabler, mais pour prendre conscience de qui nous sommes en toi. Parce que toi, Jésus, tu as tout accompli à la croix il y a plus de 2000 ans. Père, tu nous as bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ depuis la fondation du monde. Et combien de fois j'ai tendance à l'oublier. Combien de fois je suis pris dans ce tourbillon du numérique, du boulot, de plein de choses. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je dépose tout au pied de ta croix, là, ce matin. Et je veux prendre cette décision et pendant que les têtes sont baissées, je veux faire cet acte de foi, lever la main, Seigneur. Seigneur, prends ma vie. Je veux marcher chaque jour, chaque matin, quand je vais poser un pied par terre, proclamer ta victoire dans ma vie, proclamer que tu es là et, Seigneur, réclamer ta présence pour me conduire à la stature parfaite de Christ. Seigneur, je confesse mon besoin de toi, devant toi, devant les anges et devant mes frères et sœurs. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Merci pour cette grâce que tu as donnée à chacun de nous. Ces dons que tu as donnés à chacun de nous, Seigneur. Même si nous n'avons pas forcément conscience de ce que nous avons, révèle, Saint-Esprit, ce que tu as mis dans nos cœurs. Pour que chacun de nous soyons des pierres vivantes pour former l'édifice que tu as voulu former par l'Église pour l'exercice de ton royaume sur cette terre. Seigneur, notre assemblée ici à Lambersart a un projet. Tu as un projet pour notre assemblée ici à Lambersart d'être un phare dans ce quartier, un phare dans cette ville. Merci déjà pour tout ce qui est fait, pour ta gloire. Merci pour tout ce qui se fera encore. Je te prie pour chacun ici présent et pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Merci de ce que tu nous encourages, merci de ce que tu nous fortifies, tu nous tiens debout. Merci de ce que nous allons voir ta gloire. Amen. Amen.